Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur les sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Autour de la table, nous avons encore trois chroniqueurs qui sont là pour nous parler de leur petit sujet. Nous avons Emma. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va bien et vous ?
Ouais, super. Valentin.
Bonsoir Valentin.
Tout va bien ?
Veldibra.
Ah, tu vas Veldibra. Je vois que les cours de norvégien...
Ça arrive, ouais.
Ça arrive. Et on a une petite nouvelle autour de la table. Bonsoir Roxane.
Bonsoir tout le monde.
Sa première émission.
Oui, je suis un peu malade, donc je m'excuse par avance de mes reniflements et de ma toux.
Voilà. Mais ça va, on te
parle. La maison norvégienne ne me réussit pas très bien.
Eh bien, justement, je voulais débuter cette émission un petit peu savoir comment ça va. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait un mois. Quoi de beau sous le soleil de la Norvège.
Oui, un mois de pluie, j'allais le dire. Un mois de pluie, un mois de dépression.
Ça va, il a fait beau quand même un petit peu.
Bah bof, hein.
Dernièrement, ça allait un peu mieux.
Oui, ça va un peu mieux.
Été indien. Enfin, toujours dans l'été, mais...
Oui, disons qu'il y a eu un petit retour là, depuis la semaine dernière, mais globalement, le mois d'août, c'était un peu...
Oui, le mois d'août était un peu décevant.
Oui, c'était un peu décevant. On va rester sur le mot décevant.
Valentin ?
Ça va, oui. J'ai pu faire le Frekistolen à Stavanger. J'ai pu me rendre d'abord sur la presqu'île de Karmøy. C'était pour des raisons professionnelles. Un vendredi, et du coup j'en ai profité pour aller à Stavanger sur un week-end, et j'ai fait Prekistolen du coup.
Et alors, quelle météo t'as eu ?
Excellente. Vue dégagée, beaucoup trop de monde, mais ça c'était, on l'avait dit. Mais sinon, une énorme vue sur le fjord aux alentours, j'ai fait la photo traditionnelle.
Est-ce que t'as eu
combien d'heures de rando ?
Pardon ?
Combien d'heures de marche ?
Alors pour le coup, Prekistolen, c'est assez court. C'est une heure, moi j'ai fait une heure pour m'y rendre, et après en descendant du coup...
Tu vas vite toi, dis donc.
Ouais. J'étais tout seul. Donc,
Un petit bolide, un petit bolide.
Ouais, parce que... J'allais dire, on a fait une heure et demie, nous, mais bon, ok. Et alors, raconte-nous ta sensation. On arrive sur le plateau de Prekistolen.
Et
comment tu t'es senti ?
Et une vue à couper le souffle. Enfin, c'est même, je pense que peut-être qu'en fait, je me rendais pas compte du vide qu'il y avait en dessous. En fait.
Est-ce que t'es allé
Je me suis pas penché, mais j'ai. Mais après, quand tu vois les, t'arrives, quand tu regardes en bas, que tu vois les bateaux à moteur qui passent dans le fjord tout en bas, les kayaks, t'arrives à te rendre compte un peu de l'échelle quand même.
Ouais.
Donc,
pas
non.
De comportement dangereux ce jour-là ?
Non, des gens qui s'assoient sur le bord, mais ça, je sais pas si on peut considérer que c'est dangereux en Norvège.
Le selfie est plus dangereux, je crois.
Oui, peut-être, ouais.
Et toi, Roxane, comment ça va ? Ton arrivée en Norvège, oui, du coup,
exactement.
Comment ça s'est passé ?
Bah, super bien. Donc, je suis en Erasmus ici, moi je suis là jusqu'en décembre. Et super bien, la ville d'Oslo, enfin, est magnifique. J'aime beaucoup, c'est très beau, il y a plein de choses à faire. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire plein de choses ici en tant qu'étudiante. Je suis allée à Trolltunga ce week-end pour rester sur la randonnée. J'étais pas prête. C'est dur, hein, mais j'ai campé, c'est la première fois que je campais. Et c'était à couper le souffle aussi, je rejoins Valentin, c'était magnifique. Je suis un peu détruite aussi par rapport à ça physiquement. C'était vraiment, vraiment dur. Avec un sac à dos de 10 kilos sur le dos, c'est pas
facile.
Ah oui.
Ouais, non, c'était pas facile, mais en fait, la vue en vaut tellement le détour. Donc,
t'as campé à mi-chemin ?
Ouais, non, on a marché, on a fait 7 heures de voiture, on est parti très tôt. On est arrivé vers 16 heures, on a marché jusqu'à 21 heures, jusqu'à Trolltunga, jusqu'à la langue, quoi, jusqu'au bout. On a campé là-bas, et après, le lendemain matin, à 7 heures, on était parti. Et enfin, ça a été très intense, quoi. Donc voilà, mais c'était magnifique. On a eu du soleil, couché de soleil sur les fjords. Top. Le lendemain matin, c'était un peu plus nuageux, un peu plus brumeux, mais c'était très agréable aussi. Donc en fait, j'ai pu voir les fjords sous toutes les saisons et sous toutes les lumières, donc c'était vraiment top.
Disons, une recrue sportive, hein, je me disais, ça met la barre très très haut.
Jusque-là, mais...
Oui, sachez que si vous voulez rejoindre l'équipe, vous avez rando obligatoire.
Et faire des pompes entre deux morceaux, c'est entre ça. Deux chroniques, voilà. Vous êtes au bon endroit, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. Mais un autre événement, on va devoir sans transition. On est le 12 septembre et on est le lendemain de Valgnat.
Et oui.
On a enfin passé l'événement. Les élections municipales sont terminées.
Ouais, mais bon, quel résultat. Bon, voilà. Alors... On a dit qu'on faisait pas de politique, normalement.
C'est
là,
un peu...
Là, on part
peu...
dessus. Hein. T'es embarqué, là. Mais...
Ouais, en plus, je suis encore...
Dis-nous tout, Valentin.
Non, bah, effectivement, c'est les fameuses élections municipales qui se sont tenues, mais aussi les élections de comté. Comté qui peut être autre chose qu'un fromage. J'ai pas eu le temps de préparer les blagues. Bref, et du coup, effectivement, je pense que quand on se balade dans Oslo, on a l'occasion de s'en rendre compte, même un peu partout en Norvège, mais donc, surtout à Oslo, ça se passait. On s'en rendait compte avec tous ces petits containers qui se multipliaient dans les coins de la rue, un mois avant les élections. Et puis après, alors, est-ce que vous avez reçu un goodies de la part des partis politiques ?
Non.
Ah non, aucun, non. Et moi j'ai voté en plus. Hein.
Ah ouais.
Moi je disais, je parle pas norvégien, je baissais les yeux.
Mais bon, je suis pas à je ne suis pas là. J'étais à la rencontre des partis, je savais quand même pour qui j'allais voter.
Oui.
Donc je suis pas forcément été à leur rencontre.
Ouais, mais du coup parfois
j'ai pas eu de cadeau.
Non mais comment ça s'est passé ? Non mais dis-nous tout, les cadeaux, c'est-à-dire.
Les cadeaux. Alors mais moi on m'a offert une banane à la sortie d'une randonnée.
La chance.
Et c'était à Osmarka.
Une banane de quel parti, du coup ?
De Arbeid, donc parti travailliste.
Ok, qui sont sur la rando.
Oui, qui étaient sur la rando. Après, il y avait les Verts aussi, qui voulaient juste parler, dès qu'ils ont moins de moyens.
Et... Sans doute, de toute façon, vu qu'ils n'ont fait que 4%.
Et après, non, toujours aussi un café de Arbeid Party. Puis après, il y avait le parti de droite, Høyre, qui offrait des ballons aux enfants. Mais ça, c'est... C'est
assez discutable comme stratégie. Mais bon, non, on n'en parlera pas.
Cela ne nous regarde pas. Non, mais alors du coup, parlons des communes d'abord. Donc les communes qui sont un peu l'équivalent des élections municipales en France, qui est un lieu du coup qui se tient tous les 4 ans.
Ouais.
Et du coup, qui va permettre d'élire l'équivalent du conseil municipal, donc communestyre. Et qui va lui-même, du coup, élire l'équivalent du maire, des adjoints au maire et du maire, du coup, pour les 356 communes norvégiennes. Et encore avant, il y en avait plus. Il y a une petite réforme qui est limitée.
Il y en avait combien avant, en fait ?
Pardon ?
Il y en avait combien avant, alors ?
Avant,
beaucoup.
Pardon, mais
je n'entends pas.
Non, mais bonne question. Mais je pense que c'était aux alentours de 395. Donc c'est pas non plus la grosse réforme. Voilà.
Ou 300.
Faut sortir un chiffre pour être crédible de toute façon. Et du coup, les communes qui s'occupent un peu comme en France de l'éducation, mais jusqu'au collège, des soins à domicile, personnes âgées, des services sociaux, puis du coup l'aménagement du territoire.
Et du coup, comment s'est passée l'élection ?
Alors, au début, on a un pré-vote. Donc, du coup, Emma, est-ce que tu as fait un pré-vote, toi ?
J'ai fait un pré-vote dimanche, moi. Donc, je ne suis pas allée dans un conteneur. Je suis déjà allée sur le lieu de vote. Donc, moi, j'habite à Tøyen, donc je suis allée à Tøyen School. Il y avait absolument zéro queue, ce qui n'était pas du tout le cas. Toute la semaine, j'avais un peu essayé d'aller sur le Tøyen Torget, où là, il y avait un conteneur. Et là, une queue monumentale tous les jours. Et donc, dimanche semblait être le jour... béni pour aller voter sans faire la queue.
Mais c'est nouveau maintenant que le vote soit ouvert le dimanche, parce que du coup, là, moi, ce que j'avais vu, c'est que le vote pouvait se tenir se tenait le lundi.
Oui, de toute façon, c'est bizarre pour nous, Français.
Il compte.
Justement, on ne vote pas le dimanche, mais apparemment, oui, c'est une nouveauté, parce qu'on a des amis qui étaient très étonnés qu'on y aille dimanche. Ils pensaient que la limite était à vendredi et ensuite il fallait attendre
vendredi pour le pré-vote et lundi.
Bizarrement, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'était fermé samedi. Donc on pouvait voter vendredi, pas samedi, dimanche.
Peut-être qu'il fallait un jour obligatoire de repos pour ceux qui s'occupent des scrutins.
J'ai pas éclairci ce mystère du samedi fermé, mais bon, en tout cas, dimanche était une bonne journée.
Mais apparemment, oui, effectivement, c'est assez récent qu'ils ouvrent exceptionnellement le dimanche. Enfin, c'est peut-être la deuxième fois, je crois, même. C'est pour inciter à peu près, apparemment, les gens à aller voter.
En tout cas, je sais que vendredi, puisqu'on a suivi de près les informations avec mon compagnon, il y avait plus d'1,4 million de personnes qui avaient voté vendredi déjà.
Ah, c'est énorme.
Ouais. Donc, on voit quand même que...
Tu parles d'Oslo.
Là, je parle juste d'Oslo.
Ouais, ouais.
Hein,
ah ouais,
ouais. Non, 1,4 million en général, je pense pas que ce soit Oslo. Ça serait plus que l'habitation d'Oslo. Donc, 1,4 million sur toute la Norvège. Comme quoi, aider les gens à voter, ça...
En même temps, ça faisait à peu près un mois que les votes étaient ouverts.
Pas autant. Hein.
Du 10 août maintenant.
Ah ouais.
Au vendredi, ouais. Et du coup, moi, le lundi, il y a même mon collègue qui est enseignant, qui lui avait un jour de vacances.
Oui, les écoles sont fermées. Elles étaient fermées le lundi hier.
Donc, sacrée journée. Et du coup, on va parler des différents choix qu'on a en tant que parti. Alors, Si je vous dis du coup Arbeitspartiet.
Bon, ça oui, c'est le parti travailliste.
Parti travailliste.
Voilà, c'est donc, le deuxième grand parti norvégien.
Juste, ouais, à partir de lundi, du coup, c'est devenu le deuxième parti.
Oui, c'est ça. Avant, c'était le premier à gagner toutes les municipales.
Ouais, c'est un peu l'équivalent de notre PS, du coup, en ouais. France. Enfin, en termes de proxy, enfin, je sais pas, en termes de positionnement politique, sur, c'est plutôt centre-gauche. Donc, mais ce parti existe encore et avant faisait des 25%. Et maintenant, je crois qu'ils ont fait à peu près 20%, 21%.
Oui, c'est la chute, c'est la chute.
Donc c'est le parti actuellement qui dont est issu le premier ministre. Et après on a Høyre aussi, donc
la droite.
La droite.
Les républicains quoi.
C'est oui, alors ouais, c'est par rapport au centre, oui, après par rapport au programme, on pourra discuter, je pense, parce qu'en général
je connais pas très bien le programme des républicains, je vais pas mentir.
Étonnant.
Je m'engage pas sur une comparaison là. Mais bon, en tout cas, oui, c'est un peu l'équivalent, ouais, un peu de l'UMP, des républicains comme on a pu avoir. On a le Fremskrittspartiet, donc qui est le parti du progrès. À voir quelle définition on met derrière progrès. Oui. Hein, je ne m'engage pas non plus.
Comme Front National.
C'est ça.
C'est un peu moins extrême, ceci dit. Mais bon,
ça reste la Norvège.
On reste sur des bonnes idées d'extrême droite.
Mm-hmm.
Mais 11%, 12%, pas loin.
Ils ont fait un 11,5.
Ouais, c'est ça.
Mais ils veulent, niveau national, ils veulent détaxer, ils veulent baisser la taxe sur l'alcool. Pas forcément. Enfin, voilà. Ça dépend de quelle position on a sur.
Les 11% viennent de là.
Mais non, mais ils cherchent à avoir des votes. On connaît les stratégies de l'extrême droite. Hein.
Non, puis après, bon, on est sur quand même, au-delà de ça, on est sur un parti qui est souvent. Enfin, une politique d'immigration plus stricte, si on peut dire ça, avec aussi une diminution de la taille de l'État, enfin, assez libérale économiquement. Et après, du coup, on a le Centerpartiet, donc qui veut dire parti du centre, mais qui est en fait plutôt un. Avant, il s'appelait le parti des fermiers, du coup, qui s'effondre doucement aussi, qui est passé de 15% à 8%. Et c'est un pays un parti qui est plutôt en faveur du protectionnisme économique et la décentralisation. Et pour les Français, du coup, c'est un peu le parti à abattre, puisqu'ils veulent augmenter les taxes sur le fromage, même étranger.
Oh là!
Ça sera ma seule consigne de vote.
Ma seule consigne de vote.
Non, bah, pourquoi le fromage étranger? Après, c'est parce que, du coup, partie des fermiers, c'est plutôt un vote d'agriculteurs, en fait. Donc, ils vont plutôt protéger tout ce qui est exploitation agricole norvégienne. Après, on a le MDG, du coup, qui est le parti des Verts. Qui s'est ramassé, c'est ton parti.
Oui, on sait. Quoi, vous avez dit tout de suite.
Il y a une petite expression sur le visage. Assez,
tu portes du bleu, mais
silence. Oui, 20,9% dans mon quartier, quand même. On est l'exception, je dois vivre dans un microcosme de gauche et vert.
Bah, tu t'es bien trouvé ton quartier, du coup.
Mais voilà,
c'est bien.
Du coup, je suis bien dans mon quartier. Il y a qu'un virgule. Combien c'est le FRP, 2,5% dans mon quartier.
Ouais. C'est bien.
Toyen Grenoble Casse.
Continuons. Donc après les Verts qui se sont pété la gueule.
Ah, taisez-vous.
On a le Rut, donc qui est parti rouge littéralement, donc qui est l'équivalent du Parti communiste. Peut-être qu'en termes de programme, pour le coup, il se ressemble avec le Parti communiste français, parce que plutôt d'inspiration communiste, mais qui ressemble, qui a un très faible score, mais qui a dû bien monter aussi à Toyen, j'imagine, à Grenoble Casse.
Juste Venstre, non, tu disais
Rut.
10%, 10,5.
Dans ton.
Non, mais ça moi je vis dans un microcosme de gauche.
Et toujours un peu dans la même tendance, on a le Socialistic Venstre Party, donc qui est plutôt socialiste gauche parti, donc qui a monté un petit peu en fait. Si on compare par rapport aux Verts, eux ils ont un peu monté. Mais du coup, qui est plutôt du coup, sur une politique plutôt d'inspiration socialiste, mais intéressant du coup, c'est ce qu'ils sont contre en fait l'adhésion à l'Union européenne. Et à la présence dans l'espace économique européen, ce qui fait
et l'OTAN aussi.
Et l'OTAN, oui.
Ça, j'ai pas compris pourquoi.
Ouais, c'est partie de ils ont une politique pacifiste.
De pareil que pour l'Europe.
Et du coup, c'est quoi les enjeux de cette élection, Valentin ?
Alors, du coup, au niveau local à Oslo, c'est un peu compliqué à donner parce que j'ai pas suivi tout simplement les élections. mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ça se passe en même temps que les élections de comté. Les comtés, c'est une division administrative au-dessus des mairies et qui ressemble un peu au département / région en France. Ouais. Donc on parle de fylkeskommune. Et à noter que la Norvège compte à peu près 11 comtés. Donc ce qui, donc en même temps, voilà, donc pour le coup, le comté ou la Fylkes commune va plutôt s'occuper des écoles d'un niveau supérieur, donc plutôt lycée, des transports, de la route, de la politique culturelle au niveau régional. Donc voilà, les élections sont tenues en même temps que les élections municipales. Et après, autre enjeu, c'est qu'en ce moment, on est sur un mi-mandat des élections des députés. Donc il y a 2 ans, on a eu un nouveau gouvernement, enfin un nouveau parlement en Norvège, et on se retrouve à mi-mandat, ce qui permet un peu de prendre le pouls sur l'adhésion à la politique du gouvernement, qui n'est pas très positive pour du coup, vu que le parti travailliste c'est un peu diminué, devient le deuxième parti du coup de Norvège. Et après, il y a aussi un enjeu au niveau de la participation qui avait un peu augmenté de 2015 à 2019, qui était à 64% en 2019, et je crois que là elle était à 62% aujourd'hui.
Ce qui est quand même assez énorme,
ouais.
Je trouve.
Pour les élections comme ça.
Et moi, ce qui m'avait, j'avais un peu discuté de ça, donc je ne m'y connais absolument pas. On m'a expliqué que vraiment, ils poussent les élections, enfin les gens à voter, mais jusque dans les facs. Et il y a des pôles d'élection, des endroits pour voter jusque dans les facs. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir faire ça parce que les Norvégiens votent beaucoup plus qu'en tout cas en France, et je trouve qu'ils pourraient faire vraiment la même chose dans plein de pays, parce que c'est hyper important les élections n'importe lequel.
Moi je trouve quand même que de donner justement la possibilité de pouvoir voter à n'importe quel moment, voilà, ça c'est génial. Leur mode de fonctionnement, je ne sais pas si je veux pas te couper le
après la façon de voter.
Mais la façon de voter, je ne sais pas si tu as décrit comment ça se passe.
Enfin, je vais le faire, mais du coup, il y a un scrutin.
Je ne veux pas t'enlever l'air du pied.
J'ai zappé le texte, mais merci de me revenir dessus.
Je trouve ça très pratique aussi.
Parce que du coup, c'est un scrutin par liste. Donc, un peu à la proportionnelle, sauf que du coup, ils ont la possibilité de donner une sorte d'extra point à des candidats de cette liste et aussi à des listes concurrentes.
En fait, tu as des papiers de la même couleur. Alors, c'était vert pour Gamlebyen, donc mon
quartier,
mon arrondissement, on va dire. Et c'était rose-orangé pour... rose-rouge, plutôt. pour Oslo commune. Et donc en fait vous choisissez les parties sont donc des formats pliables en trois parties, et en fait tout le monde a la même couleur et vous choisissez votre parti au lieu de choisir un candidat comme on le fait en France. Là on va choisir un parti, on ouvre le petit fascicule et là c'est pas obligé non plus, on peut soit choisir 2 candidats pour qui on préférerait qui nous représente ou pas. De toute façon, on vote pour un parti plus que pour une personne, en fait.
C'est top, ça aussi.
Et ça, je trouve ça assez cool aussi.
Parce que ça se manque en France.
Voilà, après, c'est un peu, si vous connaissez, si c'est un peu stratégique, après, de choisir 2 personnes. Mais bon, on choisit surtout son parti. Et ensuite, pas d'enveloppe, pas de truc. On referme ce petit fascicule et c'est ces 2 fascicules qui seront ensuite étudiés.
Et si je peux rebondir, il y a un truc qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est le test, en fait, le Valgomat, qui était disponible sur Enerco. Où on peut justement, on nous pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on est plutôt pas d'accord ou plutôt très d'accord? Et en fait, on voit où les partis se positionnent. Et à la fin du quiz, comme on arrive.
Ouais, comme en France avec les présidentielles, quoi.
Il y a eu ça en France aussi,
Moi, je l'ai fait 100 fois.
J'ai jamais vu ça. Après, c'était bien de dire, moi, j'étais en accordance avec 3 partis, à peu près 80%. Je suis plutôt dans cette mouvance-là.
Oui, il y avait ça en France aussi pour les présidentielles.
Moi, je l'ai fait à chaque fois.
Je trouve ça vachement bien.
Pour les jeunes, surtout aussi, c'est beaucoup plus, c'est plus ludique et ça pousse un peu à
savoir un peu vers quoi on se dirige. Ça pose des questions concrètes sur ce qu'on...
Mais du coup, Valentin, qui c'est qui pouvait voter à cette élection?
Alors, du coup, tous les citoyens norvégiens et aussi des pays nordiques. Donc, si vous êtes citoyen de Suède, Islande, Finlande et Danemark, vous n'avez pas vraiment de restrictions en termes de temps. Enfin, vous avez aussi le droit de voter comme un Norvégien, en fait, à ces élections-là.
En tant qu'immigré aussi, moi.
Alors, oui, mais toi, parce que ça fait plus de 3 ans que tu es résident en Norvège.
Oui, moi, c'est la 3e fois, je crois, que je vote. Ça ne nous rajeunit pas.
Donc, si tu es un Suédois qui vient de. Mais il faut habiter en Norvège.
Si tu es un Suédois qui habite à Oslo, tu peux voter.
Parce que je me disais, c'est comment c'était formulé. D'accord.
Non, si tu es un Suédois qui vit à Oslo, tu peux voter dès ta première année.
Dès ta première année. Ouais. Ah ouais.
Et ça, ouais, du coup, ça marche.
C'est parce que tu sais tout de suite comment ça marche. Alors que quand tu arrives immigré, ils voient tout de suite que tu comprends pas bien.
Moi, j'ai pas le droit de voter.
Non, ouais, pas encore, pas encore.
L'année prochaine, mais il n'y a pas de scrutin. Mais
ouais. C'est, tu sais, peut-être dissolution.
En tout cas, en tant qu'immigré, moi, je trouve ça très cool de pouvoir voter, personnellement.
Mm. Je sais pas s'il y a d'autres. En France, c'est pas possible de voter aux élections municipales en tant qu'immigré. C'était évoqué un moment, je crois, mais.
Non, je crois
très
pas.
Bonne
crois
question.
Pas, non. Non.
Non, non.
Pour une fois, c'est moi qui pose les questions. Alors, mais alors sinon, vous pouvez aussi voter à part, si vous êtes citoyen norvégien à partir de 18 ans. Mais à noter qu'il y avait en 2011 et 2015 des expérimentations pour des votes à 16 ans. Donc il y a 20 communes qui ont lancé des votes à l'âge de
16 ans.
Ouais, à partir de l'âge de 16 ans pour expérimenter un peu les conséquences que ça aurait sur la participation des jeunes, leur implication dans la vie politique. Yeah. Du coup, pas trop de changements en fait. Par contre, les candidats qui étaient plutôt jeunes avaient tendance à rapporter davantage de voix qu'en temps normal.
Puisque les jeunes votent pour des jeunes.
Bah apparemment, ouais.
Donc, ouais. C'est mais ils votent comme leurs parents, a priori.
Bonne question aussi.
Pas forcément, mais c'est encore le cas maintenant.
Non, ils ont arrêté. Non, ils ont arrêté. C'est juste lieu en 2011 et 2015.
Donc maintenant, c'est 18 ans.
Mmh. Ouais, c'est ça. Et après, et que dans 20 communes, à titre expérimental. Et après, du coup, il y a aussi en Norvège une tradition que j'ai découvert, qui sont les Skolvalg, qui sont les élections une semaine avant les élections officielles.
Oui, oui, oui.
Donc, du coup, si tu es, par exemple, étudiante en collège ou lycée, une semaine avant n'importe quelles élections, donc soit élections nationales pour les députés, élections communales, comme on l'a vu là, ou les élections au Parlement Sami. Eh ben, une semaine avant, on a des élections qui se tiennent dans les lycées où les étudiants défendent les partis, souvent les grands partis nationaux. Ils vont avoir des débats qui vont avoir lieu. Et avec des cours parfois aussi d'éloquence avant. Et on va avoir du coup ce vote qui aura lieu une semaine avant la tenue du scrutin. Et parfois, ça fait un peu miroir par rapport à ce qui va arriver. C'est ce qui s'est passé justement. Il y a la droite qui a balayé le parti travailliste. Mais du coup, par contre, ouais, on avait la droite et l'extrême droite en fait, qui ont fait une grosse poussée. Ah. Et on a eu ces élections qui se tiennent depuis 1980.
C'est top de faire ça.
Et une poussée historique, d'après ce que me disait mon compagnon hier. Que la gauche a été genre à la mairie d'Oslo depuis genre 60 ans, 70 ans, enfin je sais pas exactement, je veux pas dire de chiffres faux, mais en tout cas depuis très très longtemps, historiquement, Oslo a toujours été à gauche.
Alors qu'est-ce qui a changé?
J'en sais rien.
C'est dur pour dire, mais là on est dans une période de forte inflation en Norvège. Économiquement, il y a eu des meilleurs temps, il y a le taux de chômage qui augmente.
Et du coup, ça te fait voter à droite?
Ça te fait pas voter pour le parti qui est au pouvoir. Moi.
Ouais.
En France, c'est ce qui se passe aussi. Je ne sais pas,
c'est peut-être parce qu'ils ont refusé de légaliser la weed. Je ne sais pas. Le parti de gauche en Norvège, c'est le parti de gauche.
Ouais. C'était proposé.
Ah oui, oui, c'était proposé. Le parti de gauche a dit non.
Puis après,
je pense pas que ça soit là une.
Non, mais
une
raison
principale. Ah, c'est vrai qu'on attendait. Ah, sur ce débat-là, en tout cas, moi, personnellement, je n'attendais pas la droite qui était pro. Que c'était le cas.
Mais là, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport au conflit Russie-Ukraine, l'inflation. Ça fait beaucoup de sujets qui font pas rêver, quoi.
Ouais. Toute l'Europe se droitise, non?
Ouais. Le monde, j'ai l'impression, de manière générale.
Le monde se droitise. En fait, regardez Trump, jamais été aussi populaire que depuis
qu'il est en prison.
C'est ça.
Il n'est pas en prison, ça serait bien qu'il soit en prison.
Effectivement, il serait temps.
Mais plus il a des affaires qui lui tombent sur la gueule, plus il est populaire, c'est quand même fou.
Il est toujours pas en prison?
Non,
c'est comme en France, hein, on n'emprisonne pas les politiciens.
Regarde Sarkozy, vous voulez quoi là?
Et bien sûr, sur ces belles phrases, on va faire une petite pause musicale. Un choix de Valentin qui veut nous faire écouter Everybody Wants to Rule the World by Tears for Fears. Eh bien, de retour dans notre émission de Brisons la glace, on avait une pause bien sympathique, on n'a pas pu s'arrêter. On a parlé de politique avec toi, Valentin, merci encore.
Au plaisir.
Et on va parler de quelque chose qui pouvait aussi être un petit peu politique. On va parler de cinéma avec toi, Roxane.
Oui. Alors, moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps et je sais que le cinéma, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, humblement, hein, j'ai 20 ans, voilà, on ne va pas aller trop vite. Mais j'ai voulu un peu découvrir les classiques du cinéma norvégien. Je me suis un peu renseignée avec des amis que j'avais en Norvège pour savoir un peu qu'est-ce qu'il fallait voir, qu'est-ce qu'il ne fallait pas voir. Et j'en ai vu 4 en tout parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver plein de films sur Internet vu que je ne pouvais pas les payer parce que bah, je suis étudiante, quoi. Mmh. Donc c'est compliqué. Mais j'ai réussi à
j'ai pas de thunes.
Voilà, en gros. Ouais, j'ai réussi à trouver quelques-uns en streaming parce qu'ils sont quand même assez connus. Donc ça, c'est top. Et j'ai notamment pu regarder Julie en 12 chapitres. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Jamais.
Et ben, il est sorti en 2021. Il a été réalisé par... Alors, je me présente tout de suite. Je vais un peu triturer tous les noms norvégiens qu'il y a. Donc, excusez-moi par avance.
On est tous à ce heure-là, je pense.
Donc, il a été réalisé par Joachim Trier.
Trier, qui avait fait le 31 août.
Voilà, exactement.
Ah, oui.
Donc, voilà, c'est pas Justine Trier, mais ça lui ressemble quand même pas mal. Il a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2021. Et l'actrice principale, Renate Reinsve, a remporté le prix d'interprétation féminine. Donc c'est un film qui suit Julie, une jeune trentenaire belle et pleine de ressources, mais qui cherche encore complètement sa voie. Elle change d'études drastiquement, elle quitte son mec drastiquement aussi. Et en fait, c'est vraiment un film sur la vie que j'ai beaucoup aimé. Ça dure 2 heures, c'est passé assez rapidement. Et en fait, ça raconte la vie tout simplement. Je me suis assez reconnue aussi dans le personnage principal parce qu'elle se pose plein de questions. Elle est vraiment en train de remettre tout en question, de faire des rencontres et de vivre. Elle n'a pas peur de se tromper, en fait, mais elle a quand même plein d'autres peurs. Elle a peur de rester bloquée, elle a peur de passer à côté des choses. Le titre original en norvégien, c'est, attention, Verdens verste menneske, qui littéralement veut dire la pire personne du monde. Je trouve ça sublime comme film aussi, parce que c'est pas du tout la pire personne du monde, c'est vraiment juste une femme qui se cherche.
C'est d'ailleurs dommage qu'ils aient très beau film. Ce titre-là.
Ouais, complètement. Bah, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est en 12 chapitres, quoi, coupé en 12 chapitres, mais je suis d'accord. Et ça soulève aussi quelques questions de société actuelle, telles que le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants. Il y a aussi quelques questions sur un peu le woke, on va dire ce mot un peu interdit, mais voilà. Et c'est assez intéressant, ça parle aussi des réseaux sociaux, du réchauffement climatique. Petit lapsus sympa. Mais donc c'est hyper intéressant. Après, c'est un film qui est assez lent, qui est un peu niche, qui est un peu d'auteur, entre guillemets. Donc il faut aimer ça.
Oslo 31, ouais,
c'est...
Voilà.
Donc,
dans le sens, c'est tiré d'une histoire française, d'ailleurs, Oslo 31 août.
Ah ouais, je ne l'ai pas vu.
Ouais, je sais plus comment s'appelle le livre en français, mais il a adapté ça d'un livre français.
Ouais. Bah, je ne l'ai pas vu non plus. Okay. Mais ouais, c'est assez lent, quoi. Faut aimer.
Film qui était sorti, je pense, l'année des attentats de Breivik. Donc, ouais.
Voilà.
Ça posait une petite ambiance.
Ah bah avec, avec le même acteur principal.
Ok.
Ouais.
Anders Danielsson-Lee.
Et avec une scène tournée à Robinet, ce petit bar près de Rockefeller, dans Oslo 31 août.
Moi, j'ai repéré la piscine, tu vois.
Il y a aussi la piscine, mais il y a Robinet. Moi, j'y travaillais à l'époque. C'est pour ça, je sais.
Feu follet de Pierre Drieu-La Rochelle. Ça s'inspirait, ce film.
Très bien. Et moi aussi. Pardon. Sorry.
On coupera
le Covid arrive.
Voilà, c'est ça. Attention, attention. Et donc voilà, donc Julie en tout chapitre, j'ai vachement aimé, j'ai bien aimé. Faut aimer les films lents, comme j'ai dit. C'est un truc qui a été sélectionné au Festival de Cannes, donc on voit un peu le style aussi. Mais c'est un bon film. Il y a eu pas mal de bonnes critiques. Donc voilà, si on sait pas quoi regarder, c'est sympa aussi. Ensuite, j'ai regardé un vieux film. Ça a été vraiment, dès que j'ai demandé, on m'a dit faut que tu regardes ça. C'est un film d'animation, donc c'est Flaklipa Grand Prix. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est sorti en 75.
Ah.
Ça a été réalisé par Ivo Caprino et c'est un film d'animation en volume. Et selon mes sources, mais enfin je ne savais pas quand j'ai regardé, les personnages sont bien connus par les Norvégiens car ce sont les personnages de l'auteur et illustrateur Kjell Aukrust. Je ne connais pas non plus. Mais
c'est les dons, là. C'est pas eux, là,
Bah, c'était...
Et comment, la carie et,
Non, là, c'était...
Carus Sebactus.
Ah non, t'as raison, c'est Carus Sebactus.
Ouais. Non, là c'était un pingouin, non pas du tout, si. Et enfin, oui, il y avait plusieurs personnages différents. Et j'ai un peu de mal à regarder parce que c'est un type d'animation qui me plaît pas énormément. Il y a des moments où je peux me sentir un peu mal à l'aise parce que c'est le truc un peu en 3D, pâte à modeler.
Stop motion.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même regardé avec plaisir parce que l'histoire est marrante, c'est bien amené, les personnages sont attachants et je comprends pourquoi c'est un classique pour l'enfance des Norvégiens parce que. Bon, parce que c'est ce qu'on m'a dit en fait, mais je comprends parce que c'est assez marrant et c'est l'histoire d'un répareur de vélos qui est isolé dans une contrée norvégienne, qui a créé, qui est un inventeur aussi, qui a créé un super moteur pour la F4. Et donc, il y a un de ses anciens stagiaires, on va dire, qui est hyper connu par rapport à ça. Et il veut un peu se venger. Il dit, moi, j'ai créé un moteur qui est encore plus fort que celui de mon ancien stagiaire. Et il m'a volé la vedette. Donc, j'ai un peu envie de montrer que je peux y arriver. Et donc, c'est toute l'histoire d'un Saoudien ou d'un mec du Moyen-Orient qui est dans le pétrole, qui lui achète les dessins. Et donc, après, il y a cette course à la fin qui dure un peu longtemps quand même. Mais c'est assez marrant. Donc voilà, moi, ça m'a plu. C'est passé assez rapidement. Ouais. Ouais, Flaclipa Grand Prix.
Ouais. Mais c'est bien le même auteur que Carius et Bactus. Okay. Alors, Carius et Bactus, c'est autre dessin animé, je pense, vraiment classique pour les Norvégiens. C'est donc une carie et une bactérie. Et en gros, oui, voilà, c'était des dessins animés pour les enfants dans les années 70, 80. Voilà, pour bien les pousser à se laver les dents.
Mais
c'est complètement cul, Carius et Bactus. C'est donc le même auteur. Moi, je connaissais Carius et Bactus, mais pas le Grand Prix. Me donne envie.
Et fonce.
Et bien.
J'ai réussi à le retrouver gratuitement sur le site Internet Archive, qui est un super site que j'ai découvert. J'ai même réussi à regarder La Grande Vadrouille dessus. Donc c'est un bon film, c'est un bon site vieux, c'est gratuit.
Si vous voulez vous faire la soupe aux choux,
exactement.
Ruez-vous.
Voilà.
Non, on parle de ce 31 août et on arrive là-dessus.
Sachez que vous pouvez avoir l'application Arte sur votre Smart TV aussi. Si vous avez une Smart Télé, vous pouvez avoir l'application Arte où il y a plein de vieux classiques.
Oui.
Moi, dans le genre, j'ai vu Rocco et ses frères récemment. Donc
Non, mais c'est bon. Il y avait une blague. Oh là là. Elle a traversé l'esprit.
On continuera pour ta chronique. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu d'autre?
J'ai regardé Ealing, qui est un film sorti en 2001, qui a été réalisé par Peter Naes. Je ne sais pas comment ça se prononce. Peter Naes. Enfin, le A et le E ensemble, là, qui sont accrochés. Peter Naes. Je ne sais pas comment ça se prononce.
C'est ça, hein.
J'appelle comment c'est le cours de norvégien.
Toi là-bas.
C'est ça, voilà. Et il a été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Donc Ealing est un homme de 40 ans qui est coupé du monde extérieur et sans repère parce qu'il a une petite maladie mentale, on ne sait pas préciser laquelle, mais on s'en rend compte, qui est admis dans un centre spécialisé après le décès de sa mère, qui s'était occupée de lui jusque-là. Il y rencontre Kiel, un ermite qui ne pense qu'au sexe et à la nourriture, avec qui il partage la chambre. Et 2 ans après, les services sociaux d'Oslo leur offrent un appartement pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie active et dans la vie en société. C'est un superbe film, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Sur les personnes avec des handicaps mentaux, c'est une histoire d'amitié, d'adaptation à un nouvel environnement, mais aussi de réclusion. C'est rempli d'émotions et ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un film comme ça, qui se finit bien, qui touche un sujet difficile, mais quand même de manière assez légère. Il y a des scènes très touchantes, d'autres qui sont drôles, d'autres qui sont un peu plus difficiles, mais ce n'est pas larmoyant non plus, ça déchire pas le cœur.
Ni voyeur, du coup.
Non, exactement. Et c'est une belle histoire d'amour, d'amitié et de vie. C'est la découverte aussi de la vie sous un œil différent de quelqu'un qui a du mal vraiment à... Enfin, qui est très angoissé de la vie. Il dit que c'est les personnes qui sont toujours avec lui quand il sort, c'est l'angoisse et un autre sentiment que je n'ai pas compris en norvégien, donc je ne sais plus. Mais par contre, impossible de le trouver. J'ai dû regarder en italien sur YouTube. Donc, je parle italien, donc ça va. Mais c'est... Donc, j'ai regardé en italien sur YouTube, c'est compliqué.
Italien sous-titré ou...
Non, c'était norvégien. C'était sous-titré en norvégien, il me semble. Je sais plus.
Bravo, en tout cas, pour la performance. Voilà. Hein. Ouais. Je pense que là, on note un investissement.
Oui.
Ah non, mais on recrute bien ici. C'était parti du test.
La preuve, hein, la exactement. Preuve. Ouais.
Mais vraiment, j'ai vraiment, vraiment aimé la simplicité des choses, des personnages. Et je recommanderais vraiment à tous de le regarder parce que c'est léger, c'est facile, ça ne dure pas hyper longtemps. C'est un beau film qui parle de la Norvège et aussi de la difficulté à se sentir à l'aise en société aussi. Et finalement, ça c'est un film que j'ai fini de regarder aujourd'hui, donc je suis un peu en retard. J'ai eu du mal aussi à le trouver, c'est Le 12e homme. Ça vous dit rien, okay, non. Vous regardez sans rien, donc je comprends. Qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par Harald Svart et acteur principal Jonathan Rhys-Meyers. C'est un film de guerre norvégien inspiré de la vie de Jan Balsrud, qui a pu s'échapper sous d'atroces conditions de la Norvège pour se réfugier en Suède après une tentative de sabotage envers les nazis qui a mal tourné. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. C'est un très beau film également, très dur. Il y a beaucoup de scènes où j'ai dû fermer les yeux parce qu'il y avait du sang et des trucs comme ça. Et moi, ça me fait des frissons, j'aime pas trop. Mais ça n'empêche que c'est un beau film de résistance. C'est des histoires, enfin c'est vraiment basé sur des faits réels. Donc il survit à une avalanche, il se fait poursuivre, enfin c'est vraiment une chasse à l'homme. Et c'est très beau parce que il y a vraiment, ça parle vraiment de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale où bah, c'est la Norvège pour la Norvège, vive la liberté, et beaucoup de résistants, beaucoup de personnes qui l'ont aidé. Donc c'est assez assez intéressant aussi pour connaître l'histoire de ce pays sous la Seconde Guerre mondiale, parce que du côté en France en tout cas, on n'apprend pas trop l'histoire qui est un peu plus à l'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis voilà, il essaye d'atteindre la Suède pour pouvoir après arriver en Angleterre, pour pouvoir après retourner et détruire un peu les nazis. Et c'est assez dur parce qu'en fait, c'est sur les 12 hommes qui ont fait cette mission, c'est le seul à survivre. Donc c'est, ouais. C'est aussi psychologiquement très dur. C'est un film qui dure 2h15 et j'ai tout de suite été emportée par le film. Donc c'est vraiment aussi un film, c'est comme Dunkerque ou 1917, quoi. C'est un truc top à regarder. Très beaux acteurs, très bons acteurs, très beau paysage évidemment, parce que la Norvège, c'est magnifique. Ça. Donc voilà. Et finalement, c'est les 4 films que j'ai pu regarder. Parce que les autres, je n'en ai pas trouvé. Il y en avait 2 que j'avais très envie de regarder. Ça s'appelle... le premier, c'était L'envers du dimanche, qui est sorti en 96.
Ouais, c'est une chose, ça.
Ouais, qui a été nominé aux Oscars du meilleur film en langue étrangère et qui raconte comment une fille de pasteur se rebelle et refuse de faire sa communion. Donc c'est un peu une critique de la religion. Ça avait l'air trop intéressant.
Extrêmement présent dans le sud de la Norvège, il faut le savoir.
Très bien, je ne savais pas. Et le dernier que je voulais voir, c'était La Chasse avec Mads Mikkelsen, qui a été réalisé par Thomas Vinterberg et sorti en 2011. Et là, c'était une histoire complètement différente. C'est Lucas, le personnage principal, est accusé de pédophilie à tort. Donc peu à peu, la méfiance des habitants et de ses anciens amis laisse place à une descente aux enfers pour lui et toute sa famille. Donc ça a l'air hyper intéressant aussi.
Tu l'as pas vu ?
Je l'ai pas vu, non.
Ah, excellent. Malheureusement. C'est un film danois des frères Mikkelsen. Il est incroyable. Un film
quand horrible, je l'ai vu, il me semble.
Ouais, quand tu bosses dans le milieu, t'es là, ok. Ouais,
c'est un peu comme le film, je sais plus le nom, mais c'est avec Jacques Brel, il me semble, qui a joué dans un film où, pareil, les professeurs d'école, c'est un vieux film, donc Brel, professeur d'école qui est accusé à tort par une de ses élèves d'agression sexuelle envers lui. Et donc, c'est un film atroce. Dur. Mais ça a l'air super. Donc, si vous avez des bons sites de streaming à me conseiller, je suis preneuse pour pouvoir les voir.
Sinon, t'es étudiante.
Oui.
qu'est-ce que tu vas faire ? Non, mais bon.
Non, sinon, tu payes un VPN.
Ouais, oui, aussi, oui. Il faut que je trouve ça.
Moi, je paye un VPN.
Un NordVPN ? Ouais. Ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par NordVPN.
Non, mais on devrait leur demander de sponsoriser.
Si vous êtes intéressé pour sponsoriser.
NordVPN, si vous nous écoutez.
On fait de la promo actuellement.
On vous utilise depuis 5 ans au moins. Pas perso.
Mais du coup, avec Valentin, on est quand même aussi allé voir des films dans le
Barbie
cadre de... Alors oui,
en parlant de blond...
je suis allée voir Barbie, mais indépendamment de Valentin. Ouais. Je suis allée avec des amis. J'étais un peu à la ramasse de Barbie, mais je me suis recalée.
Et alors ?
Bien, un bon divertissement.
Film du dimanche soir, non ?
Ouais, en fait, je m'attendais un peu plus de... Comment dire ?
De couleur.
Ouais, non, mais d'engagement politique féministe. Et en fait, c'était plus une parodie.
Ouais.
J'aurais peut-être, ça aurait pu être le bon film pour aller plus loin. Mm-hmm. Ils l'ont pas fait. Bon, ça manquait pas non plus. Je trouvais que c'était quand même. Bon.
Je l'ai pas vu, mais sur les réseaux
sociaux,
ça a été une guerre totale pour le film. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes. Bon, je l'ai pas vu, mais beaucoup de personnes sur Twitter notamment qui ont dénoncé un peu le film, surtout des hommes. Qui disent que c'est un film trop féministe, on s'attendait pas à ça, ou je sais pas quoi, faut pas le faire voir aux enfants.
Oui, et puis t'as les féministes qui disent que c'est pas assez féministe.
Oui, aussi, c'est jamais content. Mais...
Puis on a commencé à comparer avec Oppenheimer, ce qui n'a absolument rien à voir.
Tiens, alors Oppenheimer, c'est super d'ailleurs.
Comment on peut comparer deux sujets pareils
C'est que c'était les deux blockbusters.
Oui, c'était les deux blockbusters.
Par contre,
t'enchaînes pas l'un l'autre.
Non.
Par contre, le casting de Barbie, incroyable. La scénographie, incroyable.
La BO aussi.
La musique était bien sympa
les
aussi.
Les décors, non mais tout ça a l'air dingue en fait.
C'était dingue, vraiment dingue. Après, moi et Barbie, ça fait 2, donc 3. Donc j'ai jamais eu vraiment de Barbie. Donc j'ai pas eu le côté « Ah ouais, j'avais ce costume-là pour ma Barbie !» Enfin bon bref, donc, j'étais pas du tout dans le trip.
Ouais.
Que beaucoup de gens ont vraiment aimé, quoi. De dire « Ah ouais, moi j'avais cette Barbie avec telle et telle... »
J'ai vu une copine sur les réseaux à Oslo, habillée tout de rose le jour où elle
Ah mais ça c'était bon
ça j'avoue que cet investissement pour aller voir des films Bon, bah, ça m'échappe.
Ouais, hein, mais il y a eu un engouement autour de Oppenheimer et de Barbie. Mais
en même temps, 100 millions de dollars de marketing, ouais. Je veux dire, ça, ça donne. Moi, je voyais sur LinkedIn et tout ça, des leçons de marketing. Ouais, mais t'as 100 millions de dollars en fait.
Bah voilà.
Aussi. Donc oui, effectivement, tu comptes sur Google au moment de la sortie du film. Tu tapais juste Barbie, ton Google devenait tout rose.
Ouais. Ouais, ah ouais,
ouais. Donc ils ont fait des trucs de dingue. Mais bon, 100 millions de dollars de
c'est pas trop
gros quand même. Hein. Enfin,
Et Mattel a pu exploser les ventes de Barbie, si j'ai bien compris.
Ah bah oui, là, les Barbie qui étaient ringardes sont devenues à la mode.
Après, j'ai trouvé ça surprenant. La réalisatrice qui avait réalisé Lady Bird, donc c'était vraiment rien à voir. Donc on passe d'un film plutôt indie à un film hyper commercial.
Bah, maintenant, Mattel veut aussi faire un film sur d'autres jouets. C'est prévu, je sais plus, j'avais ça sur Twitter aussi.
Ah bah là qu'ils ont
faut s'arrêter
une suite de Barbie.
Oui, non mais
enfin, pourquoi s'arrêter quand ça marche, c'est comme les Avengers, ils vont faire 150
mais les Avengers c'est différent quand même, il y a peut-être un peu plus de fantasy derrière que Barbie.
On n'y comprend plus rien aux Avengers, on n'y comprend plus.
Non mais moi je crois que j'en ai vu un des films, mais après au bout d'un moment
j'ai regardé The Flash.
Ils meurent jamais, il y a toujours des guerres mais ils sont toujours là.
Et là ils sont tous là dans le nouveau The Flash. Il y a Superman, Batman. J'étais perturbée, ils étaient tous là, je m'y attendais pas.
Mais du coup, ce qu'on disait, c'est que tous les trois, on s'est rendus à Oslo Pix Festival, il y a deux semaines,
un peu près, comme ça.
Ouais. Et on allait voir ensemble le film Bloca. As-tu entendu parler de Bloca ?
J'en ai entendu parler grâce à vous, mais si peu.
Si peu. Ouais. C'était la première au final qu'on a vue ce jour-là. Beaucoup d'émotions dans la salle.
Ouais.
Un film, un documentaire très intéressant sur la difficulté pour des locataires à devenir propriétaires de leurs biens rachetés par la grande multinationale Heimstaden qui leur mène une vie horrible.
Ouais. Ouais.
Qui est le grand classique de toute façon des grands propriétaires qui rachètent un bien, qui le rénovent et qui mettent le loyer plus cher, qui n'est plus abordable pour la plupart des locataires. Donc ça se passe à Sagena.
Ouais, j'allais dire, c'est la gentrification.
Voilà.
Là, on la voyait, c'était hyper présenté.
Non, moi, en 10 ans d'Oslo, je vois beaucoup les quartiers changer. Mmh. Quoi. Mmh. Entre Grønløkka Grønland aujourd'hui.
Voilà, donc en fait, ce film, c'est plutôt c'est un peu le combat de David contre Goliath. Goliath étant Ivar Tollefsen, qui était un grand aventurier norvégien.
Il a fait du ski.
Sur l'Antarctique. Il a grimpé là où personne ne l'a fait avant. Enfin, bref. Mais qui devient un requin. Un requin de fric, quoi.
Ouais, c'est ça.
Concrètement, avec maintenant beaucoup de. C'est le Monopoly, quoi. C'est-à-dire qu'il s'acquiert deux bâtiments ici et là, au Danemark, en Allemagne.
Il y en a beaucoup à Oslo aussi.
À Oslo, principalement en Norvège, mais ça s'est vraiment étendu. Donc voilà, film touchant. Puis surtout puisque les participants étaient tous dans la salle, donc il y avait un petit peu.
J'ai une petite anecdote là-dessus. Ouais. Donc première fois que j'entre dans un cinéma norvégien. On se sépare tous les trois pour chercher une place. Je loupe une marche, donc je m'étale sur 5 mètres et je me casse
avec
la gueule.
Avec ou sans popcorn ?
Sans popcorn, ça va, j'étais juste toute seule, mais vraiment, je m'étale. Vraiment, j'ai failli me casser la gueule et je me retiens à une femme, une femme un peu âgée qui était assise à côté de moi. Donc je rigole pendant 5 minutes toute seule et je suis un peu désorientée, donc je m'assieds à la première place que je trouve. Et donc je m'assieds tranquillement et il y a un monsieur à côté de moi qui me dit « Ah, je crois qu'il y a quelqu'un à votre place qui est journaliste. » Je fais « Ah, c'est marrant, je suis aussi journaliste, mais enfin, c'est pas vrai, je suis juste étudiante. » Et après, au bout de 2 minutes, je me dis « Bon, je vais quand même partir. » Et au final, le monsieur assis à côté de moi est monté sur la scène, était un des habitants de cet immeuble. Voilà, ça a été très gênant. Je me suis vraiment assis, je me suis cachée sur le siège parce que ça a été atroce.
Ah oui, il est venu intervenir après.
Exactement, voilà. Et je pense qu'il s'est foutu de ma gueule, clairement, parce que je parlais anglais. Ça se voyait que j'étais pas nouvelle. J'étais nouvelle ici, quoi. J'étais pas à l'aise.
Mais tu lui as posé une question un peu.
Mais non, mais juste, on a discuté 3 minutes, quoi. C'était juste, il m'a regardé en mode, il faudrait peut-être que tu partes, parce que ici, c'est la place pour vraiment les gens qui sont pour le reportage, et je le savais pas, quoi. Moi, je me suis vraiment assise comme si de rien n'était.
Bon, en même temps, il est resté norvégien, il t'a pas viré
non plus. Ça va, il était très gentil. Mais j'étais gênée, parce que je suis pas.
Non, mais film, film documentaire.
Touchant.
Touchant. Voilà. Puis après, avec Valentin, on allait voir.
Après, juste pour bloquer, ce qui se passait aussi, c'est qu'en fait, le film était sorti du coup à 3 semaines des élections. Et ce qui se passait dans le film, c'est qu'on avait on sentait qu'il y avait des lenteurs. Enfin, déjà, la mairie respectait pas la procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui faisait que les personnes. Qui pouvaient permettre aux personnes de devenir propriétaires de leurs biens. Et malgré de nombreux votes. Et du coup, on voyait les votes se dérouler aussi. On voyait les partis qui votaient.
Qui votent contre.
Ouais. Et tout ça, du coup, à 2 semaines, 3 semaines des élections municipales. Donc, c'était assez cocasse de voir la... Et on sent qu'ils ont attendu pour le sortir, parce que c'était depuis 2020 qu'ils préparaient... même depuis 2018 qu'ils préparaient la sortie.
Non, puis après, ça mériterait un peu plus de... Parce que bon, nous, on voit ça comme étranger. On n'a pas vraiment l'historique de ces partis, pourquoi ils se mettent en opposition pour des mesures qui pourraient aider des petites personnes, entre guillemets, à accéder à la propriété, quoi. Ouais. Puisque la plupart de ces personnes-là, enfin non pas la plupart, un certain nombre avaient la capacité financière de le faire. Donc voilà.
Mais ça, on ne les aide pas.
Donc c'était, ils avaient prévu un programme, loueur aux propriétaires.
Voilà, c'est ça, sûrement.
Voilà, donc ça, c'était Bloka, un film norvégien. Puis après, avec Valentin, on allait voir...
West Colonized.
Vas-y.
Film, sur une politicienne du Groenland, qui s'appelait du coup Ayu Peter. Ouais. La personnalité est intéressante dans le sens où on parle d'une elle était écolière du coup dans Groenland, elle est originaire du Groenland et au Danemark du coup pendant les années 80, 70, comme ce qui s'est passé avec le peuple sami finalement en Norvège. Les étudiants pour certains ont été déplacés pour étudier à l'internat au Danemark et elle faisait partie du coup de ces étudiants là. Et en fait, elle n'a jamais appris le groenlandais, la langue locale de sa région. Et elle s'est retrouvée à parler danois seulement ou anglais. Et en revenant du coup au Groenland, elle n'était pas en mesure de dialoguer avec les autres enfants. Donc elle s'est faite harceler au Groenland. Et on la voyait un peu à la recherche. Bon, c'est un peu un film autour de sa recherche d'identité et aussi de défense des droits des peuples inuits du Groenland. C'était intéressant à voir sous cet aspect-là, je trouvais. La caméra aurait mérité d'avoir un pied en cadrage. mais non, sinon, c'était intéressant sous cet aspect-là. Ouais.
Ça je pense qu'il y a le parti pris pourtant.
Non, j'ai pas, ça partait un peu dans tous les sens, je trouve.
Non, mais disons que le sujet abordé était super intéressant. Dans le sens où on parle très peu de ces peuples qui ont été vraiment colonisés, doublement colonisés, et qui n'arrivent même pas à atteindre l'autonomie politique, quoi. Ouais. Puisqu'ils disaient que si le Danemark s'en allait du Groenland, ce serait juste pour être, pour que ce soit un autre pays qui reprenne la tutelle, entre guillemets. Donc ils sont un peu condamnés à avoir toujours une tutelle, quoi. Ouais. Donc c'était un peu triste. Après, il y avait quand même des ouvertures assez sympas. On va voir si le temps leur sourit d'entrer peut-être au Parlement européen ils l'ont expliqué.
L'idée d'avoir, je crois, c'est d'avoir une représentation des peuples indigènes européens, en fait. Donc ça comprendrait les Groenlandais, les Inuits et les Samis, surtout. Après, je vois pas d'autres peuples indigènes.
Puisqu'ils ont leurs propres problématiques, en fait. Ils expliquaient que quand ils ont banni la chasse aux phoques, qui est quand même...
La baleine. C'est au Parlement européen, ils avaient interdit cette pêche-là. Ouais,
du coup. Ouais. Qui est la principale activité. Et ben du coup, ça se pète la gueule, quoi. Leur économie, il n'y a plus rien. Et du coup, ça les plonge dans la... On a précarité, s'ils n'étaient pas forcément non plus super riches. Donc c'était en tout cas le sujet intéressant.
Ouais.
Le film aurait été...
l'envie.
Non, ouais. Mais après, il y a un bouquin. Peut-être que le bouquin est plus intéressant.
C'est ça.
Voilà.
Il y a un bouquin
Internet en fait.
Internet Archive. Je mettrai le lien en description.
Peut-être que le bouquin qui peut-être est sorti maintenant, Twice Colonized, est peut-être plus captivant. On va faire une petite pause musicale. On va écouter
Jungle.
bien on est de retour sur Brisons la glace. Et c'est l'heure de ma petite chronique. Je vous ai gardé le secret jusqu'au bout. J'avais décidé de vous parler d'un événement qui aura lieu demain sur toute la planète. Un événement qui rassemble les spécialistes comme les amateurs autour d'un même objet de convoitise.
Le piano.
Attention.
Non, c'est la journée de quoi ?
C'est la journée internationale.
Des chiens.
Le 13 septembre.
Du chocolat.
Des bananes. Ah, du chocolat.
Et oui, okay. Le chocolat. Et oui, ben. Et le chemin, il faut dire que le chocolat, on a fait les fèves de cacao, d'où extrait le chocolat, fait d'abord office de monnaie d'échange, 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était une monnaie d'échange d'autant plus précieuse que le cacaotier a toujours été lié aux divinités, puisqu'il était aux yeux l'arbre des dieux. Au Belize, par exemple, les archéologues ont découvert des résidus de cacao dans des poteries, ce qui prouve l'existence d'une consommation de chocolat depuis la nuit des temps. Voilà, d'après les Mayas, le chocolat aurait été découvert par les dieux.
Donc ça fait partie de nos gènes, en fait, maintenant.
C'est ça. Pour les valeurs pures et divines, la boisson issue de la fève de cacao était utilisée à des fins thérapeutiques ou bien religieuses. Lors des mariages et cérémonies pour des jeunes enfants, ou pour accompagner un défunt lors de son dernier voyage, le cacao avait pour rôle de purifier et de bénir les participants. Voilà. Et c'est finalement en 1300 après Jésus-Christ que les Aztèques ont fait évoluer le statut du chocolat. Alors là, attention, en l'associant à Xochitl, qui était la déesse de la fertilité. Excusez-moi pour mon mexicain très approximatif.
c'est Maya. Ils sont pas arrivés, l'espagnol.
Oui, voilà, bon, ok, boum.
Pardon. C'est mon côté historique,
c'est ce que j'allais dire. Et comment ça, des Mexicains?
La censure historique. Ah. Non.
On va pas parler d'un Norvégien alors qu'on parle d'un viking.
Ah non.
Jamais.
Bon, alors, la boisson était appelée le Xochitl. C'était très amer et pimenté. Et du coup, en fait, pour le mettre un petit peu plus... pour l'adoucir, il rajoutait de la vanille, les Aztèques. Voilà.
Et du coup, ça fait du rhum, après.
Et bien, écoute, là, le mois prochain, tu nous fais une chronique sur le rhum.
Ah ben, volontiers. J'ai déjà eu un cours de rhum,
figurez-vous. Petite dégustation aussi. Voilà.
Ok, on fait chronique imposée.
On en fait une petite bouteille.
Donc le chocolat était consommé surtout pour combattre la fatigue. C'était prisé par les nobles et les guerriers. Mais le problème, c'est que c'était une denrée assez rare et qu'il fallait importer les plantations mayas. C'est compliqué. Bref. Et donc au final, le cacao arrive en Europe en 1615. Un petit peu avant, et en France en 1615. C'est la fille du Louis-Philippe II d'Espagne. Je regarde Valentin, c'est bon. Anne d'Autriche, qui lors de son mariage avec Louis XIII, a fait connaître le chocolat à la cour française. En 1659, Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, ouvre une chocolaterie dans le quartier des Halles. Voilà. Et en 1674, on voit le premier chocolat à croquer. Et en 1780, il y a une première fabrique de chocolat qui s'installe en France. Dans quelle ville ?
Chocolat ?
Pas loin, Bayonne.
Ah ouais.
Et voilà, au XVIIIe siècle, le chocolat est quand même un produit de luxe. Pour s'offrir un kilo de chocolat, à l'époque, il fallait 4 jours de salaire. Voilà. Un siècle plus tard, en 1815, la première usine Van Houten était construite. S'en est suivie la culture intensive de la fève sur le continent africain, puis en 2 ans, ils se sont vraiment développés. Et voilà, depuis, le chocolat envahit le monde entier pour notre plus grand bonheur. Mais alors, pourquoi une journée internationale, me direz-vous ?
Il y a des journées internationales pour tout.
Alors déjà, savez-vous qu'il y a à peu près 4 journées internationales de chocolat ? Donc, c'est pas la seule. Mais alors, le 13 septembre, c'est parce qu'en 1995, on a décidé de célébrer... En 1995, on a donc commencé à faire cette journée internationale le 13 septembre parce que c'est l'anniversaire d'un auteur qui parle beaucoup de ce mai. C'est Roald Dahl qui a écrit Charlie et la chocolaterie.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est un petit peu ça, le livre qui a donné un petit peu la culture populaire au chocolat. Voilà, des bienfaits, il y en a beaucoup pour le chocolat noir. Il stimule la mémoire, la concentration, un puissant antidépresseur naturel. Il peut combattre l'insomnie, il réduit la pression artérielle, des capacités antioxydantes, bref, très bien. Maintenant, petit quiz autour de la table.
Okay.
Ah,
Ah, attention. Alors, ce n'est pas un.
On met une petite musique d'ambiance ou pas qui va avec dans le thème.
Si tu veux.
Pas ton morceau, mais
vas-y, vas-y. Mets-moi une musique de.
S'il veut bien partir.
Ah.
Alors.
L'anticlimax. Ok. Alors. Vous avez droit à une réponse chacun. Okay. Donc réfléchissez avant de donner votre réponse. Combien de kilos de chocolat un foyer français consomme en moyenne par an ? En kilos.
2 kilos.
Par an et par foyer.
Ah, par foyer peut-être.
Pas par
plus,
personne.
3 kilos
par foyer.
5
par an.
70.
70 kilos ?
Ouais.
Toi, tu dis 3 kilos ?
Moi, j'allais dire 10.
Alors, victoire pour Roxane, c'est 13,2 kilos par an.
Ah, quand même.
Donc, ça fait 3 grammes par jour. C'est pas, pas grand-chose.
Bah non.
Hein,
mais
voilà. Les Français se distinguent par proportion à consommer plus de chocolat noir que le reste de l'Europe.
Un chocolat noir, en plus.
Ouais, 30% contre 5% en moyenne en Europe. Quel est le pays qui consomme le plus de chocolat par habitant ?
Les Américains.
Mmh, beau pays, les Américains. Les États-Unis, j'allais dire aussi.
Espagne.
Alors, non, non et non. Deuxième chance, c'est en Europe.
Les Turcs.
Les Italiens ?
Allemagne.
En Italie ?
Eh bien non, c'est les Suisses.
Ah bah oui.
Eh oui,
ah bah
les Suisses. Oh là là.
Belges ou les Suisses, en fait.
J'ai calé. Je vous ai vu râler.
Non, non, non. Non, évident, mais t'aurais parlé de montre, tu vois, on aurait pensé à la Suisse.
J'avais pas, alors. Eh, ouais, hey, un pays où ils ont les chocolats et montres.
Non, 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 mais c'est vrai que, bon, voilà.
J'avais pas donné la réponse
les
non plus.
Suisses, bien sûr.
Alors, les Suisses, ils consomment 9 kilos par an par personne.
Ah oui.
C'est énorme. Voilà. Donc, ils sont premiers et la France est quand même à la 11e place comparée.
Est-ce que le chocolat permet de rester neutre ?
Ah, c'est ça, je pense.
Peut-être, ouais. Peut-être. Le Japon et le Brésil, ben, ils consomment que 1,2 kg de chocolat par an, par habitant.
Le Japon, ça ne m'étonne pas.
Le Brésil aussi, pourtant, ouais, ils doivent en fabriquer beaucoup.
Ouais, mais ils ne le mangent pas.
Ah ouais. Voilà.
Alors, attention, concentrez-vous bien. Dernière question de ce mini-quiz. Alors. Le chocolat le plus cher du monde, donc c'est une madeleine à la truffe de la maison Knipschildbrille. Mm-hmm. À combien elle coûte au kilo ?
1000 euros le kilo, 1500 euros le kilo ?
C'est à la truffe, ok. Donc,
Ah non, à la truffe. Ouais.
Ah, c'est au kilo ? Oui, d'accord. Ah merde, j'ai
Mais à la truffe blanche ?
Quelle truffe,
quel truffe d'abord
c'est, ouais. Pas, c'est pas précisé. Mes recherches sont juste égarées sur une page internet.
Je dirais à la truffe blanche.
Ouais, 5000, bon. Je pense. 5000 euros.
5000 euros. Toi, tu dis quoi ?
Ouais, 4000 euros.
3000.
Ah, on va donner la victoire à Emma. C'est 3600 euros le kilo.
Ah.
Désigné par le magazine Forbes comme le chocolat le plus cher du monde, la madeleine à la truffe de la maison Knipschildbrille. Elle est très extravagante. Elle est fabriquée à partir de chocolat noir Valrhona et cache une truffe du Périgord recouverte de ganache.
Ah, donc une truffe noire.
Voilà.
La truffe du Périgord, non ?
Voilà. Bien, alors maintenant, on va passer à la partie finale de cette chronique. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous donner un petit quelque chose. Tu fermes pas les yeux, tu triches.
Ah, pardon.
Alors.
On t'attend la main ?
Je vais vous la déposer. On va commencer par...
Tous ces chronk. Ah,
voilà, t'en as un.
On dirait un chocolat, je ne veux pas faire genre.
Tu t'avances un peu.
Je m'avance un peu.
Je trouve.
Alors, non, vous avez
un peu risqué quand même.
Ah
oui.
On
merci.
Peut croquer dans ce chocolat ou...
Alors, vous pouvez goûter. Vous avez trois choses différentes.
Ok.
On a tous les trois un parfum différent.
Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous goûtez ?
Chocolat. On dirait les petits chocolats qui t'offrent avec le café.
Moi, j'ai un chocolat caramel, je pense.
Un chocolat caramel.
Moi, ça a la réglisse, pardon.
Ouais.
Ça a la réglisse. Chocolat réglisse.
Il y a un truc, ça pique un peu, moi. Il y a du chili, non ?
C'est ASMR, en fait, là. Hein.
Oui, séance, ouais. Alors, non, ce sont des délicatesses de notre ami Sébastien Bruno. Donc, Valentin, tu as goûté un chocolat au chili. Toi, tu as goûté des petites pastilles, donc effectivement à la réglisse, au chocolat et aux fruits de la passion.
Ah oui, effectivement.
Et toi, tu avais au caramel, effectivement, quand tu l'as trouvé.
La chance.
Voilà. Je mange beaucoup de chocolat.
Bah, merci beaucoup.
Donc, si tu veux, tu peux aussi goûter le chili, si tu veux, il est là. Et tu peux aussi prendre. Moi, je n'en prendrai pas, mais. Voilà, c'est la fin.
Pourquoi tu peux pourquoi
mais parce que je suis au régime.
Oh. Ah. Mais non, mais tu viens de citer tous les bienfaits du chocolat.
C'est antidépresseur.
Il faut en manger.
Ah, je vais goûter le chili.
Voilà.
Allez.
Oui, c'est anti. Si tu peux pas être au régime et faire une déprime, tu vois.
Donc voilà, on va faire une mini pause. Alors, est-ce que tu as trouvé une chanson?
Je t'avais trouvé chaud cacao et là, j'en ai trouvé une encore pire.
Très bien.
Manger le chocolat. Ah oui. J'ai tout fumé les gravenes. Pas toujours pas là. J'ai tout vidé le rhum coca.
Non, mais alors.
C'est cette reprise dégueulasse. J'étais tous pas prête. J'ai voulu réagir comme ça là.
Tous étaient choqués par le choix musical.
Par ce remix
immonde. Non, mais alors, avant d'aller faire mes courses cet après-midi pour retrouver du chocolat, je me suis égarée sur News New to Oslo et dire quel est le meilleur truc, le meilleur magasin de chocolat. Et il y a un Belge qui a écrit « go to Belgium instead ». Je dis « ok ».
Ah, merci, c'est bon, ça.
Mais sachez que donc, Sébastien Bruno, là où je suis allée, donc très bon, très cher,
ouais, très bon,
et Pascal sont dans les top 2. Et puis après, il y avait aussi un magasin à Nittedal, actually, si vous êtes du côté de Nittedal. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se forment en fait au chocolat, donc qui commencent à avoir d'autres
alors
petites boutiques.
Alors moi, j'ai été à Frédérikstad. Ouais. J'ai pensé à toi, Valentin, d'ailleurs.
Et à Camille.
On salue Camille.
Salut Camille.
Et du coup, il y a une Française qui a une petite boutique qui fait des sarments du Médoc.
Ben, va falloir qu'on lui rende visite.
Bon, c'était 300 couronnes de sarments du Médoc. J'ai dit, bon, ils sont super bons, mais là, désolé. J'avais pris chocolat noir yuzu, délicieux. Ouh, donc voilà, j'ai bon oublié ça. Le nom de cette dame, mais en tout cas, si vous voulez des serments du Médoc à 300 couronnes, rendez-vous dans la vieille ville de Frédérikstad.
On fait de la pub gratuite ce soir.
Voilà.
On mettra son contact sur notre page Facebook liée à notre épisode d'aujourd'hui, quand il sera monté tout chaud, tout beau, après la diffusion sur Facebook. On va finir l'émission avec toi, Emma, puisque tu as une petite liste des applications indispensables pour un Norvège.
Ouais.
Donc Roxane,
j'ai pensé un petit peu pour Roxane, voilà.
Merci beaucoup.
Qui se joignait à nous aujourd'hui. Je me suis dit, bon, bah, alors attends, quelle app t'as déjà installée sur ton téléphone?
J'ai l'application La Météo, la YR.
Ah, bah voilà, c'était la numéro 1 dont j'avais parlé. Je vois que tu as déjà été conseillée, car quand même, l'application numéro 1 indispensable à tout téléphone qui arrive en Norvège, c'est IR, YR. Là, donc c'est le Météo France norvégien, hein, vous connaissez tous. Bon bah voilà, 100 fois plus fiable que Météo France en Norvège. À l'inverse, IR en France, absolument pas fiable. Météo France, beaucoup mieux. Donc voilà,
ça
on
me semble
reste
logique jusque là.
Voilà, sur cet indispensable pour les transports.
Oui.
T'en as qu'une Ruter. Seule. Ruter, très bien. Sinon, il y a Vie qui permet d'avoir le train, les bus, les machins. Mais bon, pour Oslo, Ruter, indispensable. À Trondheim, Bergen, Stavanger et Tromsø. Connaissez-vous les noms des transports?
Splice? Non, comment ça s'appelle?
Stavanger, c'est Columbus?
Non, oui, c'est Columbus, pardon.
Il est chaud ce soir.
Et Bergen, Bergen, il y a peut-être presque un bisou.
Kiss?
Ouais.
Oui, voilà, bon, j'étais.
Moi, j'aurais pu le deviner aussi, celui-là.
Ouais. Non, mais Splice, c'était autre chose. C'est un tour autre chose, Splice.
Si vous êtes à Tromsø, l'équivalent du. Tromsbillet?
Ah bah bien sûr, voilà, mais ça,
oui, bah pourquoi faire compliqué.
Et ATB pour Trondheim, voilà, c'est les 5 villes du pays qui ont une application pour les transports, les autres, vous oubliez, trop petit.
Moi,
si vous voyagez en road trip, si vous êtes en mode road trip, tout ça, est-ce que vous connaissez cette app pour pouvoir faire du camping sauvage, trouver des endroits où on va pouvoir accueillir votre van, vous brancher un peu d'électricité.
Park for the night.
Bravo. Oui. Bon bah voilà, on voit qui est intégré et qui l'est pas. Donc
mais récemment,
Park Fortnite, exactement.
Mais récemment,
les endroits safe et autorisés pour passer la nuit en camping sauvage. Les utilisateurs peuvent y mettre des reviews. Ils vous indiquent aussi les meilleurs endroits avec les plus belles vues, avec les meilleures facilités d'électricité et tout ça. Enfin, bon, bref, indispensable. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez déjà utilisé Waze en Norvège ou...
Oui.
Non.
Oui.
Oui, as-tu remarqué que personne d'autre n'utilise ?
Bah oui,
totalement. Il n'y a aucun Weather, il n'y a pas les voix débiles d'El Capote ou d'Ouli qui vous font des commentaires. Par contre, il y a Vegvesen.
Ah.
Donc c'est le Waze norvégien, voilà, qui s'appelle Vegvesen et que donc est développé par le Norwegian Public Roads Administration.
Mmh. Oui, donc c'est plutôt sérieux.
Voilà, donc là on est sur du sérieux.
Il n'y a pas de dénonciation des radars. Quoi.
Non, mais c'est comme Waze, hein, on est sur un temps réel de la circulation, les travaux, les accidents, les bouchons.
Ah bah, faut que je télécharge immédiatement.
Voilà. Tu peux répéter le nom s'il te plaît.
Voilà. Vegvesen.
Très bien, je vais pas
voilà. Ensuite, pour vous, les grands amateurs de rando qu'on a à table.
Et
alors.
Totno.
Ah oui, alors je l'ai noté, mais je l'avais pas.
Et qu'est-ce qu'il y a sur
Hutt? Parce que j'en ai trouvé d'autres. J'ai vu Hutt, mais elle marchait pas sur mon téléphone. Du coup, j'ai. Je l'ai zappé, mais elle marche bien alors, Hutt.
Hutt, ouais, enfin plutôt, ouais, ça marche. Ça
avec 3T, hein, c'est ça? Non. U3T, non, c'était pas ça?
Hutt.
C'est peut-être pour ça
c'est pour que ça marche. C'était pas la bonne.
C'est
pour ça que je l'ai pas trouvé. Alors moi j'ai Norgeskart et Mappy CZ.
OK.
Alors les deux sont apparemment ultra recommandés pour les randonneurs puisque donc vous avez les trails, le dénivelé, des commentaires d'utilisateurs, etc. Donc Mappy.cz et Norgeskart. Pour des cartes topographiques détaillées avec toutes les marches.
Est-ce que tu vas aborder le ski ou pas?
Ah ben on y viendra cet hiver.
On y revient. D'accord.
On y reviendra. Chaque chose en son temps. Mais je suppute, que les pistes de ski sont aussi sur Norgeskart.
Ah parce que moi mais j'ai Aemarka pour le ski.
Mais c'est que pour Oslo non ça?
Non je crois pas. C'est pour
Aemarka.
Non. Somme Is Marca.
Ah, Is Marca. Ok. Ouais.
Non, pas Is, enfin, I.
Pas la glace.
C'est juste le blanc.
I Marca. Ok. Oui. Bon, ben, je le note pour la prochaine. Ouais. On en reparlera à la saison du ski.
Mais sur Udotno, ce qui est pas mal, c'est du coup, t'as tous les chemins de randonnée. Mm-hmm. T'as aussi les DNT qui sont présents dans les environs. Ça, c'est bien. Et pour les chemins de randonnée, ça t'indique. Bon, ça indique aussi les chemins des pistes de ski de fond. Les spots pour nager, les spots pour mettre le canoë ou le kayak aussi.
Ah bah c'est beaucoup mieux ça.
Et ça t'indique aussi pour les chemins de randonnée à quelle saison c'est recommandé d'y aller.
Mais ça c'est indispensable.
Mais par contre ne faites pas trop confiance aux estimations en termes de temps et de distance.
C'est pour quelqu'un de très entraîné.
Bah en fait non, parfois ils sous-estiment en fait les distances.
Donc il faut rajouter du temps.
Alors le mieux je pense c'est d'aller sur Strava. Ou sur une application qui...
Mais Strava, c'est payant.
Ouais, alors il y a peut-être d'autres applications qui permettent d'enregistrer un peu les dénivelés, où les personnes publient en fait leur dénivelé, le temps qu'ils ont mis. Là, c'est plus intéressant, je pense, d'y aller en termes de référence.
Ouais. Ouais. C'est là où je me rends pas compte qu'il faut un peu plus de préparation.
On apprend en se trompant, donc je parle d'expérience.
Une application pour les aurores boréales.
J'allais y venir.
Ah, bah voilà.
Sur IR boréales.
Ouais. Ah ouais?
Ah non, moi je me suis jamais servi de tir. Non, il y a Aurora. Attends, parce que moi j'ai un dossier dans mon téléphone dédié aux aurores boréales. Donc c'est Aurora Borealis One, je crois. Il y en a un.
Moi je sais, il y a un site internet où tu peux vraiment regarder les chances de. Les probabilités.
Ah non, alors c'est Aurora Alert ou Aurora Now.
No. Moi, c'est now.
J'ai eu jusqu'à 5 applications d'aurore boréale.
Et ça a marché? Est-ce que ça a marché?
On a vu?
Ah ouais. Ah. Non, mais alors.
Et sur Oslo ou
juste? Ah non, jamais à Oslo. Non.
Parce que l'an dernier, il y en avait des visibles à Oslo.
Ouais, mais il faut quand même être bien dans la campagne, très loin de la ville.
Ah, moi, j'étais très loin dans la campagne il y a 2 ans. J'y étais.
Ouais, avant?
Oui, il ne faut pas qu'on voit la lumière de la ville. Comme Songsvann, c'est un peu dans un trou. Oui, ça peut marcher. Mais bon, c'est rarissime à Oslo.
Oui, c'est pas étonnant.
Non, par contre, moi plusieurs fois dans le nord, là, vers les Lofoten. Et tout. Et bon, bah voilà, j'avais 4 applications parce que, comme globalement, j'ai mis 8 ans à en voir.
Ah oui,
à chaque fois que j'y allais, autant vous dire que j'étais prête. Hein, donc j'étais là.
Assez rongé ton frein, quoi.
Et souvent, souvent, il y en avait là dans le ciel s'il n'avait pas fait pluie, gris ou neige.
Ah oui.
En fait, il y en a tout le temps. Mais
on les voit. Enfin, qu'elles soient visibles. Alors,
l'avantage de Aurora Now, par exemple, vous dit à peu près dans l'heure combien, si vous avez des chances d'en voir selon votre localisation, etc. Hyper bien.
Parce que j'aimerais bien en voir avant de partir.
Eh ben,
ce serait un de mes rêves.
Bah voilà. Oui, je comprends.
Après, en Laponie, je vais en Laponie, moi, fin novembre.
Ah, bah,
y a-t-il des plus de chances
C'est une question de hauteur.
Oui, voilà.
Bon. Après,
Aurora Now.
Ok, je note. Merci, Emma.
Aurora Alert ou Aurora
Now. Tu pourras nous faire un retour.
Oui. Ouais. C'est magique, tu nous diras si toi aussi t'as pleuré.
Ah bah j'y pense, en plus je me suis dit peut-être que j'ai pleuré. Bah,
moi j'ai pleuré.
Bah ça m'étonne pas, je pense que je pleurerai aussi.
Voilà. Eh bien c'est
bah, voilà,
super,
super enfant et émotion. Voilà.
Donc si vous avez envie de pleurer, bah faut aller voir Pomme. On
n'en a pas parlé la dernière fois déjà. Il n'y a plus d'application ? C'est fini ?
Non, il n'y a plus d'application pour aujourd'hui, c'est fini. Ah.
Est-ce que t'as des applications à recommander, toi ?
Après, il y avait Bruce, dont j'ai déjà parlé pour le sport.
Qui ne nous sponsorise toujours pas.
Non, mais on devrait aller les voir. J'ai commencé des nouveaux cours, il faudrait que j'aille voir.
Ouais. Non, Valentin ?
Non, que dalle. Rien de plus.
J'en ai peut-être, mais j'ai pas mon téléphone. Donc...
Oh là 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 là.
Voilà, c'est pas pratique.
Ouais. NordVPN pour regarder quoi.
Voilà, Internet Archive, je répète aussi.
On va faire comme Seb Lafrite, sponsorisé par.
Non, après, il y a l'application qui permet de suivre aussi la consommation d'électricité quoi, en temps réel. C'est utile en hiver.
Ah oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas très sur mes comptes en banque, donc je n'ai pas fait les applications bancaires.
Moi, je vais en rajouter une petite application.
Ah, vas-y.
SOP Control, parce que c'est vraiment le moment pour aller chercher les champignons. Il y a beaucoup plus.
Ah oui.
Et avec l'application SOP Control, en fait, tu peux prendre la photo de ton champignon.
Et savoir s'il est vénéneux.
Ah
ouais.
Et en fait, tu es en chat avec quelqu'un en direct et qui va étudier tes photos.
Du champignon.
Mais oui, mais je te jure.
Mais sinon,
Après, la dernière fois que je l'ai fait, donc c'était il y a quelques semaines déjà. Et là, en fait, ils ont décidé de pas se prononcer. Donc en fait, tu dois prendre la photo du champignon
par en dessous.
Le chapeau et après aussi l'environnement où est-ce que tu l'as trouvé.
Bah, ah oui, donc là effectivement tu es quand même.
Et après la taille.
Ça dure 5 jours après la cueillette aux champignons, du coup, s'il faut prendre autant de photos.
Ça, oui, c'est long. T'as bien tout envoyé. Hein,
et ouais, mais après ils se sont dit en fait on peut pas donner notre avis parce qu'en fait je pense qu'ils sont trop proches avec des vénéneux. Donc en fait après ils recommandent d'aller physiquement à. Parce qu'en fait, les dimanches, normalement tous les dimanches, il y a un espace où tu peux amener tes champignons et les faire contrôler.
Oui, à Sandsvan. Sandsvan, je ne sais pas comment ça se
prononce. À plein d'endroits où il y a beaucoup de fréquentation.
Est-ce que quelqu'un est équipé d'un couteau à champignons ici ?
Oui.
Ah bah oui.
Ah non, mais moi, c'est professionnel.
C'est ce que j'allais dire. Attention. Là,
on a le panier, on a la
brosse.
Ah ouais, on a tout. Et on a un coin sympa que je pourrais te recommander, mais hors antenne.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on ne partage pas les coins à champignons, normalement. Bon, j'ai un couteau à champignons, on pourrait y aller ensemble si tu veux.
La semaine prochaine, je veux dire. Non, la prochaine émission, on se fera un plaisir de revenir parler en français pour ce podcast de Brisons la glace. C'était un vrai plaisir de vous avoir autour de la table.
Partagé.
Et on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Où est-ce que vous êtes ? Écoutez-nous sur SoundCloud, partagez. On est sur Instagram, sur Facebook. Écrivez-nous. Mettez des commentaires, soutenez-nous.
Partagez.
Posez des questions, on est là pour vous.
J'avais un petit morceau pour clôturer
tout
ça.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Ah, bah alors là, j'ai un peu une rencontre improbable.
Ah.
Norvégienne, hein, bien sûr. Donc, oui. C'est Nils Beck avec Bjørn Eidsvåg. Vous ne savez probablement pas qui ils sont.
Mais
alors,
tes yeux
pétillent. Bjørn Eidsvåg, on va dire que c'est un peu le Maxime Le Forestier norvégien. Quant à Nils Beck, on serait vraiment sur un artiste beaucoup plus indépendant, un peu à la Wookid. Peut-être.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc là, on a ce duo improbable qui est sorti donc, de Nils Beck et Bjørn Eidsvåg, que je trouve très joli et dont l'album vient de sortir la semaine dernière.
On va se quitter
donc là-dessus. L'album de Nils Beck, LGBT friendly, puisque son album pour la première fois en norvégien, d'habitude il chante en anglais.
Ouais.
Là, il chante en norvégien. L'album s'appelle Jeg elsker han. Donc, je l'aime. Lui. Et voilà, et donc ce duo improbable. Que je trouve particulièrement réussi.
Au revoir. Ciao.
Salut.